France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Elle a passé 2 mois et demi dans une école élémentaire d'Ivry-sur-Seine et en a fait un documentaire tout en simplicité et plein de vie, à l'image des enfants qu'elle a filmés sur le chemin de l'apprentissage. La réalisatrice Claire Simon sera mon invitée, ce sera à 13h. Mais d'abord, on critique, et on critique 2 grandes expos. Pop Forever, c'est à la Fondation Louis Vuitton, et Du cœur à la main, Dolce & Gabbana, au Grand Palais. Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux critiques du jour, Céline Duchesnay, autrice et productrice à France Culture.
Bonjour.
Bonjour, Philippe Azoury, journaliste, critique et auteur.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. Le Velvet Underground, évidemment, pour parler de l'expo Pop Forever à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Une affirmation qui dit donc que le pop art vivra toujours. Et de fait, cette exposition entend confronter les œuvres d'un des piliers du pop art, l'artiste Tom Wesselman, à celles de créateurs qui l'ont inspiré et accompagné, mais aussi à celles de ses successeurs. Cela va donc de Marcel Duchamp à Ai Weiwei, en passant par Roy Lichtenstein, évidemment, et Andy Warhol. De Tom Wesselman, on peut découvrir 150 œuvres, ses premiers collages, ses grands toiles peintes, ces femmes alanguies aux couleurs éclatantes, ces objets du quotidien insérés dans ces tableaux. Alors qu'est-ce que cette confrontation entre le travail de Wesselman et d'autres artistes produits? On va voir ça avec nos critiques et on commence avec un avis rapide, Céline Duchesnay.
Alors, a priori, moi je ne suis pas très sensible au pop art, donc j'y allais, les yeux évidemment grand ouverts. Je dois dire que j'ai tout à fait aimé plonger dans cet univers. C'est quand même une exposition qui est essentiellement consacrée à Tom Wesselman, que je connaissais peu ou très très mal en tout cas. Et j'ai aimé ce principe de prendre des classiques de la peinture traditionnelle, que ce soit par exemple la nature morte, les paysages, les nus, pour en faire, pour aller vers quelque chose de monumental et pour aller vers des surprises. Et moi je dois dire que ces tableaux, qui sont pourtant vraiment très inscrits dans le réel, nous poussent tout de même à une certaine forme d'irréalité, de par ces formes monumentales. On est comme une sorte de petite Alice au pays des merveilles qui tout à coup se retrouve minuscule face à un énorme transistor de radio, par exemple. Et je dois dire que j'ai déambulé plutôt dans un esprit de contemplation, joyeuse, au milieu de toutes ces couleurs, au milieu de toutes ces... J'ai vraiment vu ça comme des surprises. Et puis après, avec évidemment des pas de côté par rapport justement à ces autres artistes qui ont dialogué avec lui.
On va voir ça avec vous tout de suite, mais d'abord un petit avis de Philippe Azoury.
Je vais essayer d'être rapide. Contrairement à Céline, je suis un peu plus divisé sur l'expo, dans la mesure où je suis pas certain que... J'ai pas réussi à déterminer si Tom Wesselman en était à la fois le cœur, la bouche, peut-être, parce que c'était très gourmand. Quoi, voilà. Les bouches, il y en a même jusqu'à l'affiche. Ou alors le prétexte, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Enfin, j'ai l'impression que c'est une expo qui est très très bien faite, dans la mesure où elle est très consciente de ses limites, et des limites même de Tom Wesselman, à l'intérieur de l'histoire de l'art, ou à l'intérieur de ce bâtiment gigantesque qu'est la Fondation Vuitton. Elle a réussi à s'en sortir très très bien, l'expo en tant que telle, et fait un boulot assez extraordinaire. Mais je suis pas certain que ce travail soit véritablement au service de Tom Wesselman. Enfin, on verra ça.
Céline Duchesnay, donc le principe, voilà, de confronter les œuvres de Wesselman à d'autres artistes, pour vous, ça a fonctionné?
Alors, il faut quand même dire que la majorité des œuvres qui sont présentées sont celles de Wesselman.
Donc, il y en a 150, oui, c'est énorme.
Oui, donc je dois dire que pour moi, la confrontation, elle n'est pas évidente. C'est surtout une plongée dans son univers à lui, avec toujours ce plaisir de voir l'évolution d'un artiste, de ses toutes premières œuvres. Donc ce sont des petits collages qui sont peut-être un peu plus dans l'esprit du dadaïsme, en tout cas. Elles sont exposées à côté d'œuvres d'artistes dada jusqu'à les dernières œuvres monumentales qui datent de 2004, puisque l'artiste est décédé en 2004. Donc il y a cette idée, moi, de déambulation que j'ai aimée, avec, je dirais, une vision des États-Unis qui est tout à fait... est-ce qu'on pourrait dire étonnante? Non, on nous vend le rêve américain. Donc c'est le rêve américain qui nous est vendu, avec donc ces objets de consommation. Donc on est tout à fait dans l'esprit du pop art, les images attendues. Il y a d'ailleurs pas mal de références au drapeau américain aussi, avec des présidents aussi qui apparaissent dans les natures mortes. Ces objets de consommation qui nous rendraient la vie si belle, si facile, si agréable. Et quand on regarde tout ça, on se dit ah mais oui, la vie est si simple quand on a un transistor de radio, quand on a une télévision, quand on a une belle femme blonde avec un beau rouge à lèvres rouge. Donc oui, si on a envie simplement d'être je dirais contemplatif et peu critique, il y a quelque chose qui est agréable parce que c'est joyeux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas la guerre du Vietnam, il n'y a pas de problème, tous les problèmes des droits civiques, parce que notamment toutes les grandes natures mortes qui sont présentées, qui correspondent en tout cas dans la première partie à l'année 1964, qui est une année qui est quand même très importante dans l'histoire des droits civiques, là, il n'y a rien de tout ça. Donc c'est ce décalage qui moi m'a frappé comme une surprise et parfois un peu une mauvaise surprise, parce qu'on se dit mais comment a-t-il traversé son époque et son pays, mais en même temps je me suis dit allons-y et ces grandes natures mortes où tout à coup il y a les objets qui apparaissent à l'intérieur des peintures, puisqu'il intègre des transistors, des téléphones, il y a du son aussi, il y a du mouvement.
Des téléviseurs à l'intérieur du peintre.
J'avais quelque chose du petit enfant qui prenait ce qui arrivait, je dirais. Sauf quand je commençais à sortir mon esprit critique.
Alors, si on sort l'esprit critique, on y revient à l'esprit critique tout à l'heure.
Oui, on y reviendra encore. Philippe Azoulay. Parce que je ne suis pas que conquise, contrairement à ce que croit Philippe.
Oui, je pense que Céline voit Wesselman travailler, elle est tout à fait heureuse. Voilà. Voir Wesselman travailler, se sentir bien. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que Wesselman, Céline disait que c'était un nom comme ça qui n'était pas forcément si évident. C'est un peu dans la bande des quatre du pop art américain qui serait Warhol, Roy Lichtenstein, Robert Rauschenberg ou Jasper Johns. Wesselman, ça a toujours été un peu le cinquième, je crois que sur le marché, puisqu'il faut parler immédiatement marché, mais le marché est présent partout dans sa peinture. Sur le marché, je crois qu'aujourd'hui, sa cote comparée à un Warhol, ça va de 1 à 100. Quoi. C'est quand même assez extraordinaire. Et sa réhabilitation, quand on dit que c'était un peintre quasiment oublié au sein du pop art, c'est-à-dire que à la fois ses tableaux circulaient, donc ses images étaient reconnues, le nom, lui, c'était presque effacé. Et c'est un travail de réhabilitation qui a commencé vers 2016, d'abord par la galerie Gagosian, à la fois à Londres, à New York ou à Paris, et la galerie Almin Reich. Ce sont vraiment les deux galeries qui travaillent depuis 8 ans maintenant, enfin, à ce qu'il y ait une réhabilitation totale du travail de Wesselman. Ce qui fait que bon, aujourd'hui, on a cette expo qui est à la Fondation Vuitton, avec effectivement l'opportunité de redécouvrir ou de découvrir, même plus jamais qu'un travail qui est une synthèse du pop art, même si Wesselman s'est manifestement toujours tiré un peu la gueule quand on disait qu'il était un artiste pop. En même temps, il a quand même un peu donné le bâton pour se faire battre, parce qu'on voit que ça. C'est quand même quelqu'un qui fait des grands aplats de couleurs. Bon, lui, il était très influencé par Matisse, il revendiquait, mais aucun des artistes pop art ne s'est totalement distingué d'une tradition d'histoire de l'art. Ils se sont tous inscrits dans une relecture, dans un remix de la peinture classique. À ce titre-là, il n'y échappe pas. Mais c'est vrai que lui préférait qu'on lui parle de Matisse plutôt que de Warhol ou des autres. Et il a travaillé jusqu'à 2004, jusqu'à sa mort à 73 ans, à une réhabilitation, même pas, réhabilitation est un mauvais mot, mais vraiment à installer quelques éléments, mais qui sont, il a tapé un peu sur le même clou jusque toute sa carrière, qui sont les cigarettes, la télévision, des fruits, beaucoup de d'oranges comme ça, de grosses oranges. Et des femmes.
Et des seins.
Des oranges et des seins qui marchaient très très bien. Et il le fait avec très très peu de critiques. Et c'est sans doute la faiblesse de Wesselman par rapport à la bande des quatre dont on a parlé, c'est qu'il est très très littéral. On n'entend pas, on ne perçoit pas chez lui la part critique. C'est-à-dire que vraiment, on voit dans le travail qu'ont fait Suzanne Piaget et Olivier Michelon, qui sont les curateurs de cette exposition, comment aujourd'hui, en 2024-2025, à la Fondation Vuitton, accueillir un artiste qui est à ce point heureux Et c'est vrai que la notion de bonheur, de ce bain de consommation dans lequel il trempe et dont il rend justement sur des grands appâts de couleurs ou avec, en découpant du métal, en faisant des lignes de dessin qui sont des dessins d'acier, des steel drawings, comment il arrive à reconstituer ça encore plus grand, encore bigger than life ou bigger than the market.
Votre approche plus prudente de l'exposition en elle-même, en disant voilà, cette expo elle a des limites. Quelles sont ces limites?
Ces limites, elles sont justement celles du discours de Wesselmann. Il n'a pas de, il est littéral, il a peu de portée critique en lui-même, et c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, et déjà quand on entendait Céline, on entendait bien, enfin qu'on se heurte à une critique. On peut pas présenter en ce moment-là l'Amérique, le marché. L'Amérique, exclusivement, c'est une expo très très américaine, même parce qu'il y a un autre pop art que le pop art américain, mais ça se concentre là-dessus. Je crois qu'on peut pas complètement prendre cette histoire-là sans penser aux guerres, sans penser aux problèmes raciaux aux États-Unis, sans penser tout simplement au masculinisme total qui était celui de cette période-là et dont on voit le spectre revenir aujourd'hui. Enfin, je veux dire, voilà. Moi, je l'ai vu samedi l'expo. Ce qu'on a vu lundi ne coupe pas franchement avec l'expo. Donc, on a envie d'être prudent. Et l'expo est prudente. C'est-à-dire que d'un coup, elle est prudente sur deux choses. C'est qu'elle peut pas, enfin, depuis la Fondation Vuitton, on peut pas ériger Wesselmann comme un grand critique du marché. Ça serait ridicule. Heureusement, il nous épargne ça. Ça serait pas possible. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les lieux les évitent aujourd'hui ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur l'artiste tel qu'il est, ses techniques. Et là, on voit qu'effectivement, c'est un très très grand technicien. On découvre un très beau technicien. Et les cartels, et même moi, j'étais dans une visite samedi après-midi, donc il y avait des groupes, il y avait même des groupes d'enfants, insistaient beaucoup sur le technicien. Mmh. Comment il travaille. Et la deuxième partie, c'est ce qui manque. Et ce qui manque, c'est-à-dire, c'est ce qu'on lui confronte. C'est-à-dire une autre peinture. Une peinture qui est africaine-américaine, une peinture qui est faite par des peintres femmes, une peinture qui est faite par des peintres qui ont une autre vision sexuelle qu'uniquement une femme marchandisée, sexy, à gros seins. Et là, l'expo devient passionnante, mais elle démontre les faiblesses de Wesselmann. Mmh.
Céline Duchesnay.
Oui, bah je suis en fait complètement d'accord avec Philippe, et c'est pour ça que lorsque tout à coup on a par exemple le travail d'Eric Adams qui apparaît, qui a été apparemment commandé, même pour l'exposition. Donc, Derek Adams, lui, il propose des super nudes, là où Wesselmann propose des nudes qui sont donc des femmes blanches, blondes, en effet à gros seins, grosses lèvres. Enfin, ce sont surtout des morceaux de femmes, hein, parce que
elles sont très découpées,
avec quand même quelque chose qui est aussi, donc très, une forme
pieds,
de fétichisme, mais avec quelque chose à nouveau de joyeux. Hein. Il faut quand même, on a l'impression que là, on est dans la libération sexuelle et que tout le monde jouit, tout le monde se masturbe. Tout le monde est heureux de coucher ensemble, les femmes aussi. Si ce n'est que quand on tombe sur le travail de Derek Adams, là, on a des corps nus, noirs, des hommes qui sont pas du tout qui sont à la fois, il va puiser du côté des super-héros, mais aussi des côtés des couleurs du drapeau africain américain qui est noir, vert, rouge et qui a été popularisé par David Hammons. Là, on a tout à coup, un pas de côté et on se dit « Ah bah oui, c'est vrai, tiens, on n'a pas du tout vu une seule peau noire dans l'exposition, on n'a pas vu un seul homme, ou alors on sent que c'est l'homme qui conduit la voiture qui nous est présentée, que c'est l'homme qui a construit la télévision. » Et même chose avec...
Il avait des phallus, c'est peu de bites.
Ça, c'est indéniable, je pense que c'était pas du tout son fantasme. Et lorsque Mickaëlle Nossy-Thomas, qui elle est une artiste qui est née en 71, arrive, Wesselmann est une référence et une de ses références. Là, elle fait des collages avec des corps féminins, des corps qui sont noirs et des corps qui ne sont pas du tout passifs, et ça fait du bien. Donc oui, on sent bien que par rapport à ce que propose la vision du monde que propose Wesselmann, on était un petit peu à l'étroit, et ça fait du bien de voir qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être un petit peu dans cet univers du collage, des juxtapositions d'objets, de corps, et qui proposent un tout autre discours qui est tout de même assez salvateur.
Mais ça, l'exposition fait bien son boulot, alors.
Oui, sauf que moi, je trouve que le va-et-vient n'est pas si... disons que ce n'est pas le but de cette exposition. Pour moi, c'est quand même avant tout une rétrospective avec des petits pas de côté et des regards qui sont proposés. C'est quand même avant tout quand même une exposition pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti sur Wesselmann. J'ai pas du tout senti qu'il y avait une grosse critique à l'intérieur de l'exposition de Tom Wesselmann.
J'avais quand même un un sentiment qui était différent, qui était que l'inverse même de ce qu'on va traverser dans quelques minutes avec Dolce & Gabbana, c'est que là, on avait l'impression d'une expo qui s'excuse presque d'être là, par sa très très grande conscience politique, et on va pas lui reprocher, parce que tant mieux, mais qui nous montre que... Une expo qui nous montre quand même que entre le moment où Eselman, début des années 60 jusqu'à 2004, peint, et aujourd'hui, ben, le code a changé, pour citer...
citer Daniel Thompson, qui a posé pour lui.
Voilà, Daniel Thompson, qui a été son modèle pendant deux ans, entre 71 et 73, et je ne le savais pas, je l'avoue que c'est un des grands, grands moments de surprise, comme ça, de voir Daniel Thompson être interviewé dans un poste de télé, et s'apercevoir, ben oui, que le code a changé, et c'est pas mal que l'expo nous le rappelle aussi. Je trouve que l'expo est très intelligente, elle fait très bien son travail.
Pop Forever, Tom Wesselman and Friends, disons. C'est jusqu'au 24 février à la Fondation Vuitton à Paris. Le catalogue est disponible aux éditions Gallimard Fondation Vuitton.
And Dangerous.
Dolce & Gabbana.
C'est l'expo de tous les superlatifs, 10 salles, 1200 mètres carrés, 200 robes, des bijoux, des broderies, du profane, du religieux, des couleurs plein les yeux, des noirs profonds. La maison de couture Dolce & Gabbana expose ses créations au Grand Palais à Paris. L'exposition qui a été créée à Milan avait attiré 200 000 visiteurs, mais c'est la première fois que la marque italienne montre ses modèles à Paris. Paris qui n'a jamais accueilli de défilé Dolce & Gabbana. C'est donc l'occasion de voir des pièces de légende. C'est surtout une plongée dans le savoir-faire italien. L'atelier Dolce & Gabbana est d'ailleurs reproduit sur place. L'expo est aussi un hommage des deux créateurs à ce qui les inspire et ce qui les nourrit. C'est l'art italien, c'est l'architecture, c'est le cinéma. Bref, c'est une grande déclaration d'amour à l'Italie éternelle. Avis rapide, Philippe.
Minimal, sur au cordeau, austère, sévère. Non, c'est tout l'inverse. C'est, effectivement, c'est superlatif. Bon, j'y suis allé hier matin et j'avais un créneau horaire, et mon créneau horaire, en passant, je voyais 5-6 visiteuses, visitrices, je sais pas comment on dit, sortir et dire c'est extraordinaire. Et les gens sortent avec, comme ça, des lumières plein les yeux. Et c'est vrai que je n'étais pas du tout certain de ce que j'allais voir. Et je dois avouer que oui, effectivement, on sort complètement ébloui, comme après un défilé, ou quelque chose d'autre, comme après une traversée dans... Bah c'est Milan à Paris, quoi. Et d'ailleurs, ils auraient dû rebaptiser Glane des Palades, si vous voulez, avant le Grand Palais. C'est Milan à Paris.
Céline Duchesne.
Eh bien, oui, il faut vraiment savoir que c'est une exposition où on en prend, mais plein les yeux, même le nez d'ailleurs, parce que l'exposition est parfumée du début jusqu'à la fin. Les oreilles, parce que il y a des bandes son différentes dans chaque salle. Donc les adeptes du minimalisme, de l'épure, de la frugalité, du faire, du do it yourself. Oui, il y a un petit côté do it yourself, puisqu'en effet, il y a cette mise en valeur du savoir-faire des artisans traditionnels. Mais non, si on aime le minimalisme, fuyez absolument cette exposition.
C'est pas Arte Povera, quoi.
Oui, voilà. Alors là, vraiment. Et donc, on en prend plein les yeux, c'est ce qui est très agréable. Mais moi, parfois aussi, j'en ai un peu trop pris plein les yeux, que ce soit dans les dorures, dans le cristal, dans l'excès. Mais je crois que on y va pour ça.
Philippe Azoury, alors surprise en fait.
Pour moi, oui, parce que j'ai mon goût vestimentaire n'est pas totalement porté sur cette espèce.
On vous regarde, c'est pas très Dolce & Gabbana.
Non, après j'en ai pas les moyens, mais même si j'en avais, j'ai toujours comme ça un peu de réticence vers une certaine mode italienne, comme ça très évidemment baroque. Du coup, j'ai un peu à reculons, je n'étais pas très certain non plus. J'ai beaucoup d'expos sur la mode ces dernières années, qui ressemblent quand même plus à des expos qui s'adressent à des historiens de la mode. Et je voyais pas du tout comment le Grand Palais allait s'en sortir sur cette histoire-là. Et là, on voit quand même que le pari du directeur actuel du Grand Palais, Didier Fusilier, qui est finalement de faire de Paris encore une fête, de perpétuer ce qui a été le grand moment de réconciliation nationale des JO, il est reproduit ici avec cette expo-là. C'est vrai que l'expo se traverse à la façon d'un travelling viscontien. Je pense que c'est vraiment l'adjectif total. On citera après le guépard parce qu'il est précisément nommé dans l'expo. Mais il y a quelque chose de ce faste-là, de cet éblouissement-là. Il y a cette, quand même cette jouissance à regarder qu'on aime ces vêtements-là ou pas, qu'on les trouve surchargés, ou qu'on... mais il y a quand même cette chose de ce qu'on appelle le fatwaman ou le fait main dans un dans des proportions quand même assez inouïes. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que sinon ces deux expos, quand on les voit comme ça de façon rapprochée, celle sur la pop et celle sur Dolce & Gabbana, c'est quand même à la fois deux expositions qui ramènent vers le geste d'artiste ou geste d'artisan, le savoir-faire, et de l'autre côté, c'est quand même aussi deux expositions qui mettent au centre de façon la totémisation du produit. C'est-à-dire là, on a quand même des moments des sacs ou des escarpins qui sont montrés sous cloche comme si c'était on était à côté d'un tableau de la Renaissance avec l'invention de la perspective.
Céline Duchesnay.
Alors c'est une exposition en fait qui se vit comme des coups de théâtre permanents, puisque d'ailleurs, même pour entrer dans chaque salle, il faut entrouvrir des rideaux et on jaillit tout à coup un nouvel univers. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant, parce que on ne sait pas au début qu'il va y avoir 10 salles, mais chaque salle réserve sa surprise, ses excès, ses dorures. Le fil conducteur aussi, et c'est celui, moi, que j'ai vraiment apprécié et qui m'a permis d'aller d'une salle à l'autre, c'est en effet ce savoir-faire qui est vraiment éblouissant, avec toutes ces traditions qui sont invoquées. C'est comme une sorte de grand tour d'Italie. Alors, une Italie qui est très traditionnelle, qui, on va pas avoir des révélations sur une culture italienne underground, on n'est pas du tout là-dedans, hein. On est vraiment dans le baroque, dans la tradition, dans la religion aussi qui est très présente. Il y a le guépard en référence, il y a la Scala de Milan, il y a beaucoup de choses aussi qui concernent la Sicile. Puisque...
Mais tout ça, pour moi, ça me paraît très cliché.
Eh ben, et je trouve que c'est un petit peu le défaut qu'on pourrait faire à cette exposition, c'est qu'on ne va pas découvrir des choses qu'on ne savait pas. On va découvrir l'Italie telle que, je dirais, l'Office du tourisme, classique, pourrait nous proposer. Mais ça reste stupéfiant. Ça reste extrêmement beau parce que quand on regarde par exemple la première salle où il y a, je ne sais pas, peut-être de mémoire une trentaine de robes qui sont exposées, quand on regarde les détails, l'ornementation, le travail de broderie, toutes les références faites à ces traditions italiennes, on est véritablement bluffé. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en dehors de la marque et de l'effet waouh, il y a quand même, on sent que derrière, il y a des personnes qui, avec leurs mains, ont produit des mini d'œuvres d'art qui peuvent être après sur une paire de chaussures, sur un alors il y a même des choses qui s'appellent genre t-shirt. Alors on regarde, on se dit quoi, t-shirt? Et en fait c'est une peut-être une forme de t-shirt, ou alors peut-être une base de t-shirt, mais avec une broderie tellement sophistiquée. Il y a des reproductions de tableaux de Léonard de Vinci. C'est parfois, moi je trouve ça un peu kitsch,
c'est trop kitsch, hein.
Moi non plus je suis pas très Dolce & Gabbana dans mon style, mais force est quand même de constater que on voit des choses qui sont rarissimes, puisque ce sont que des exemplaires uniques qui nous sont proposés et qui ont devant nous, je dirais, la force d'une œuvre d'art, mais tissée ou brodée ou dessinée.
Mais qu'est-ce qu'on apprend sur Dolce & Gabbana si on ne les connaît pas, en fait?
En dehors du savoir-faire, pas grand-chose finalement, parce que l'expo n'est pas une rétrospective, n'est pas une très grande rétrospective. En fait, 80%, j'ai l'impression, des pièces qui sont montrées sont des pièces qui datent de 2017-18 jusqu'à aujourd'hui.
Mm-hmm.
Énormément de pièces qui datent des trois dernières années.
Alors qu'ils fêtent leurs 40 ans.
Alors que c'est une maison qui est en fait relativement jeune, elle a 84-85. Ouais. On ne sait pas du tout, on ne les voit même pas en photo d'ailleurs. On sait qu'il y en a un qui est volubile, l'autre qui ne dit pas un mot. Enfin, tout ça n'est pas du tout mis en scène. C'est l'Italie, et c'est même l'italianité, comme disait Roland Barthes, on peut le citer sur France Culture, qui est surjoué, déjoué. Mais d'une façon qui est quand même très très belle, parce qu'on a à la fois la richesse luxuriante, le savoir-faire de chaque pièce, demande des heures et des heures de travail, avec une minutie, avec une folie, quoi, enfin réellement. Et tout ça est quand même dans un grand palais qui est... qui ne fonctionne pas encore, je crois qu'il y a 40% de ses capacités. Donc c'est quand même, il y a des choses où les escaliers fonctionnent un peu pas toujours très très bien. Enfin, les gens cherchent comment on peut accéder à telle ou telle pièce. Et finalement, dans ce qui naît, c'est ça qui est fascinant. Enfin, c'est-à-dire que tout ça qui peut nous paraître kitsch sur le papier ne marche que sur l'effet de mise en scène, de spatialisation et d'éclairage, ou de mise en musique. Et Céline, à juste titre, c'est vrai qu'on traverse ça, enfin, la façon d'un opéra, enfin, vraiment italien. Mais par exemple, la salle où on reprend le palais Ganghi à Palerme, qui avait servi de décor au Guépard de Visconti en 63. On se dit, ça va être immense, enfin, sur le papier. En fait, on arrive, ça doit faire 35 mètres carrés. C'est que du faux. c'est un papier peint, en fait, voilà. Mais tellement réalisé d'une telle manière, éclairé d'une telle manière, avec une mise en espace des vêtements de telle manière, qu'effectivement, on a l'impression de traverser un palais et d'être tout à coup Alain Delon ou Claudia Cardinal, investi comme ça de porter sur soi tout le poids de l'Italie et de le remixer. C'est là-dessus où ils sont très forts, parce qu'en fait, enfin, c'est pas fait avec peu de choses. Je pense que c'est une exposition je crois pas non plus, qui est luxuriante, mais je pense que c'est une exposition qui joue avec beaucoup de bonheur et d'intelligence à la fois sur le vrai, c'est-à-dire leur travail, et le faux. Et ça, c'est finalement la grande tradition baroque vient de là aussi. C'est vraiment, il y a du faux marbre partout. et ça les gêne pas, parce que finalement, faire du faux marbre ou mettre un sac dans des céramiques siciliennes complètement kitsch, avec des couleurs, à un moment donné on se croirait dans une pâtisserie, et ensuite passer dans des trois salles blanches ou noires totalement austères, religieuses, sobres comme ça, presque, mais très très sexy.
C'est intéressant, oui. Quel traitement ils réservent justement à la religion, ouais.
La religion, c'est eux. Alors, je sais que les deux sont très croyants et très pratiquants. Mais alors, cette fameuse salle qui s'appelle Dévotion, qui est une salle sublime, toute noire, magnifique. Où on a l'impression de rentrer dans une chapelle votive, et il y a des cœurs sacrés partout qui brillent de mille feux. Et à l'intérieur du cœur sacré, vous n'avez pas du tout Jésus-Christ ou Dieu ou la Vierge Marie. Vous avez la lettre D. Et la lettre G, donc c'est une sorte de dévotion totale. Alors, on nous explique que c'est une dévotion à l'art et que le créateur est totalement dévoué à sa cause. Donc oui, moi, c'est là où je touche un peu la limite de cet exercice
de
style.
C'est l'humour, peut-être.
Je suis pas sûre. C'est pas une exposition très drôle, je trouve. C'est une exposition qui est excessive, qui est quand même assez sérieuse. Par contre, il faut quand même dire que ce n'est pas une exposition non plus critique. C'est vrai que depuis quelque temps, la mode rentre de plus en plus, par exemple, dans les musées. Demain, il va y avoir l'ouverture d'une grande exposition au musée du Louvre, justement sur le rapport entre des œuvres de mode et puis des œuvres d'art. Là, on est quand même dans une opération commerciale de très 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 grande envergure et très réussie. Mais on est dans la promotion de cette marque, on n'est pas du tout dans un aspect historique, vous l'avez dit, Philippe, en effet, ni dans un esprit critique.
Si c'est un show, quoi.
Oui, c'est un show. Donc, si on part du principe qu'on a envie d'aller voir un show et qu'on a envie d'aller voir une Italie rêvée avec quelques images classiques et des œuvres qui vous en mettent plein la vue, je pense que c'est tout à fait réussi. Mais on n'est pas là dans un regard critique ni dans une forme de perspective face à ce qu'on nous donne à voir.
Philippe Azoulay, un dernier mot.
Une fois encore, la totémisation des pièces ou de la marque, on voit aujourd'hui ça commence à devenir le cœur du débat à l'intérieur, à la fois de l'espace muséal, mais aussi même de ce qui est exposé. J'ai quand même l'impression que dans les deux expos qu'on a confrontés aujourd'hui, il se rejoue finalement ce qui s'était rejoué en histoire de l'art au milieu des années 60 ou début des années 70, entre d'un côté un critique américain comme Arthur Danto qui pouvait dire là, je crois qu'on a vraiment atteint le bout de la comète. C'est la fin de l'art. On peint le marché. Et de l'autre côté, quelqu'un comme Clément Greenberg qui pouvait dire non, le seul sujet de la peinture, même si on peint le marché, c'est la peinture. Ça reste la peinture. J'ai l'impression que les deux mouvements sont tordus par ces deux expositions en ce moment à Paris.
Eh ben, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Merci. Philippe Azoulay. Merci Céline Duchesnay. Dolce & Gabbana, c'est jusqu'au 31 mars au Grand Palais. Et il faut citer le commissariat, c'est Florence Muller, historienne de la mode. Toutes les références sont sur la page des Midis de Culture.